notamment autour de Dijkla, la lecture de Pierre, Dijkla, tellement forte, est-ce qu'elle n'a pas un tout petit peu occulté cette dimension de Dijkla?
Maintenant, tu sais, Yvon, Pierre était un. Il a couché les artistes. J'ai vraiment vu comment il fonctionnait avec lui. Il les aidait à formuler leur pensée beaucoup. Parce que les artistes sont souvent très, très, très intuitifs. Il y en a très peu qui arrivent à expliquer ce qu'ils disent. En général, ceux qui racontent ce qu'ils font, en général, ils sont pas très bons. Et donc, Pierre avait donc créé ce mouvement des nouveaux réalistes, qui est absolument un visionnaire. Parce que le nouveau réalisme, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? C'est l'homme dans une nouvelle nature urbaine et médiatique qu'il a créée. Nous vivons dans une nouvelle nature que nous avons créée. Et alors, là où il est extraordinaire, c'est qu'il s'est dit, pour comprendre comment est l'homme dans cette nouvelle nature, il faut comprendre comment est l'homme dans la nature nature. Alors, si vous savez à quel point il n'était pas sportif, il était extraordinaire. Il était allé passer 4 mois au cœur de l'Amazonie. Il se montrait au cauchemar, j'étais couvert de pustules. Il m'a dit ce qu'il y avait des deux. Là, l'homme, dans la nature, il se sent beau. Il n'est pas jugé. C'est seul il a affaire qu'à la pluie, qu'au froid, qu'au tigre, qu'à la mort. Lui, il n'y a pas de. Alors que nous sommes entrés dans une nouvelle nature médiatique où on est jugé en permanence. Et donc, ce statut, il voulait vraiment comprendre comment on est dans la nature. Et les gens qui l'avaient vu, parce qu'il n'est pas allé nommer, il a vu des gens qu'il n'avait encore jamais vu un étranger. Quoi. C'était vraiment. Et donc Pierre a créé ce mouvement et c'est vraiment beaucoup. Il a été le dernier à se battre pour promouvoir les artistes en France. Il était allé aux États-Unis, il s'est vraiment battu. Mais malheureusement, là, c'est là qu'a commencé l'un des grands problèmes que nous vivons actuellement. C'est que, comme on le dit, les patrons. L'abstraction il y a 5 ans, parce que toute l'abstraction des années 50 en Italie, c'est nous, c'est l'Europe qui a fait le nazisme. On était les patrons, donc on l'a tiré dans le dos, on n'a rien fait, on n'a pas produit d'exposition. Finalement, l'axe New York-Paris est devenu l'axe New York-Berlin parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. Et donc Pierre a été vraiment non seulement un grand penseur, mais c'est vraiment été la bonne action. Et Yves, il a beaucoup aidé à formuler son langage. Il était formidablement intuitif, c'était un génie. Et il dit, après les années 50, nous entrons dans la situation de l'espace et de l'immatériel. Nous sommes dans la situation de l'espace et tout est immatériel. Maintenant, ça se déplace à l'étude de la lumière, à Internet. C'est affolant. De dollars se déplacent à la vitesse de la lumière, enfin, tout est immatériel dans notre civilisation. C'est ce que nous avons, c'est clair. Alors, je veux dire, en plus, la chance que j'ai eue, on me demande, dans le bureau, chez l'agence photographique, un type vient me voir en disant, je suis producteur, j'aimerais qu'on fasse un film sur Klein, est-ce que vous accepteriez de... Ok, on dit qu'on parle de Klein. Nous voilà partis un matin à Fontaine-aux-Roses, où il y avait l'école de Judo de Klein. Et donc j'arrive maintenant sur la gare, rien n'a changé, là on est toujours à la même place, là, c'est exactement le même. Et puis on commence à interview, d'accord, il est en train de moustache. Et le producteur a été armé, il présente. La veille, il est venu faire un repérage. Et ce qu'il n'arrive plus jamais maintenant, c'est en arrêt gentiment, il dit, vous cherchez quelque chose, monsieur, je peux vous renseigner. On va faire un film sur Yves Klein, et à la grande surprise, ah Yves Klein, ah, écoutez, je me présente, je suis Jean Marais, j'étais la doublure d'Yves Klein au judo, l'école de judo, c'est mon école, j'étais juste venu voir un petit peu ce rêve. Donc le lendemain, il vient pour l'interview, et puis on va déjeuner dans un restaurant en face de la table, Yves Klein, j'étais tout le temps. Et puis là, je lui dis, mais dites-moi doucement, vous étiez. Bien sûr, à ces artistes. D'ailleurs, il me dit, j'ai fait une connerie hallucinante. Un jour, il lui dit, bon, il faut que j'arrête à nous, c'est pas bon. Il passe un week-end et il lui fait un monochrome sur le mur de 6 mètres de long. deux ans après, ils ont tout gardé pour mettre de la moquette. Tu te rends compte un peu ce que tu veux. Alors je dis, mais alors tu étais, mais tombe sur quoi? Alors il y a pas besoin de sur une page. Il y a d'autres qui étaient là, et nous je l'ai toujours cette page. Il me dit oui, il est mort deux ans après, elle est dans ma cave depuis 40 ans. C'est quoi, vous avez la page de ce soir? Alors, il y a un stage de cave. Il me dit, vous avez dit, bon, mais je vous l'offre. Alors, mais là, où l'histoire est extraordinaire, vous savez que les filles avaient vos avis à Saint-Rita. Et donc, il y avait prié à Saint-Rita, il avait vos avis à Saint-Rita. Et quand ça a été travaillé dans cette école judo, ça coulait toujours à cette fenêtre. Tu regardes quoi, tu penses quoi? Non, je pense. Quelques années après la mort, on construit une chapelle à cet état en face. Le prêtre qui a vu ça, ça ne connaissait pas l'Esprit, on ne savait pas qu'il y avait là. Et la statue de cet état, il est devant la fenêtre. Et donc, il est à cet état. Donc, il me dit, bon, écoutez, je vais passer l'hiver à ma maison de campagne, hein, et puis au printemps, je vous rappelle, je vous rapporte la vache. Il m'appelle, nous étions en mois de mai, donc deux rendez-vous de l'essai, on est le 22 mai. J'arrive l'après-midi à Fontenay-aux-Roses, on fait un tour de la zone, hein, et puis à 6h du soir, il y a de la vache qui sortait de l'Asie, hein, je l'avais dans le coffre, et puis on prend un dernier pot. La chapelle de Saint-Rita, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction des roses de Saint-Rita. Tous les ans, le 22 mai, quand Saint-Rita est mort, le docteur Hubert a dit à sa soeur, va me chercher les roses dans le jardin. Il n'y a pas de roses dans le jardin en hiver, va me chercher les roses. Et il y avait des roses. Donc, tous les ans, le 22 mai, il y a une messe, il y a la bénédiction des roses de Saint-Rita. Donc, c'est celui qui a dirigé l'opération. Un, on demande de faire un film sur Klein. Deux, Jean Barret est là par le plus grand des hasards, il n'était pas venu, bien entendu. Trois, il lui pose la question. Quatre, il m'offre la vache, ce vendredi. Et cinq, il m'a donné le jour et à l'heure de la messe de la bénédiction. Bon, je suis évidemment allé faire des roses que j'ai posées. Et donc, dans mon bureau, j'ai demandé quelqu'un, il y a la photo de ce vendredi. Et donc, j'ai mis la fenêtre, comme ça, la vache. Donc tous les matins, au sympa. Ça c'est le grand bonheur du collectionneur.
Saint-Rita, c'est la patronne du coaster du jeu.
Absolument. Oui.
Un petit commentaire sur le coaster du jeu.
J'espère que. par exemple, Bobo fait s'installer sous nos pieds, c'était une cause perdue. Parce que, on peut rien contre les fonctionnaires en France. Attends, on les a vus quand même. Là, apparemment, ça sort dans le monde sa vie. Il y a des copains qui m'ont appelé parce qu'il était revenu là aussi avant. Alors je me suis battu parce que je ne voulais absolument pas. Au début, quand on se dit, tout, pourquoi pas. Et quand j'ai vu comment il fonctionne, c'est hallucinant. Pour bouger ce verre, on fait 42 réunions et on ne bouge pas le verre. C'est hallucinant. Quoi. Alors, ils m'ont dit, bon, maintenant, on est chez les mains, parce que Chirac a fait un connerie en partant. Il a fait le bâtiment de paix à Beaubourg, parce qu'il a donné la question de sa seconde. Alors ils sont arrivés, bon, alors maintenant chez moi. Alors pour planter un clou, peut-être vous demandez une autorisation en 14 exemplaires, puis comme il ne faut pas nous réveiller trop souvent, on vous répond en deux ans. Je suis désolé, je ne travaille pas à la même vitesse que vous. Écoutez, je prends la décision et attaquez-moi. Alors pour bien comme là, tu sais, on va faire un trou parce que les pièces qui devaient être interdites sont fermées. Je vous emmerde, je fais tout. Après, je suis avec Saint-Laurent, un défilé de Saint-Laurent, parce qu'au palais de Tokyo, on vit avec une majorité, c'est avec des entreprises. Donc quand je prends une décision, on perdra peu des jeunes. Au gros, c'est deux ans. Je suis avec Saint-Laurent, interdiction de faire des défilés. Je vous emmerde, je fais des défilés. Et donc ça a été une guerre de tranchées comme ça. Et là, on se fait un lobby. Surtout qu'on a été choisi comme expert pour le projet du Sénat. Et écoutez, on va fermer ainsi, comme ça, on ne peut plus travailler. Là, par contre, je crois qu'on a gagné. Résultat des courses, ça va être un espace beaucoup plus ouvert, ce qu'on voulait en faire. Parce qu'imaginez quand même, il faudrait être en France. Fait Palais Tokyo, ça s'appelle Palais Tokyo parce que c'était le pavillon japonais de 1937, au-dessus du missile, devant la tour Eiffel. Il y a eu des expositions de photos, enfin c'était. Et puis l'angle, le ministre socialiste qui a des idées, qui ne réalise pas, dit je vais en faire le palais du cinéma. Il casse tout. Il ne trouve pas d'argent, il ferme. Donc 25 000 mètres carrés, trois salles de cinéma, fermées pendant 12 heures devant la tour Eiffel. Avec Pierre Estany, Jérôme Nicolas, comme ça, on arrive, on crée une association, et puis on lance le Palais Tokyo. Il est plus fédéralement. Et le Palais Tokyo est devenu ce que le Palais Tokyo. C'est vraiment la seule réussite internationale depuis 40 ans en France, c'est le Palais. Mais dessous, il y a encore 10 000 mètres carrés, 3 salles de cinéma, qui sont fermées depuis un quart de siècle. Alors, j'avais des propositions, je voulais faire. Besson, je dis écoute, mais je n'avais pas d'interlocuteur. Quoi. Et quand Chirac a donné à affecter le bâtiment à Beaubourg, ils se sont dit bon, on va s'installer. Alors, avec une idée idiote, en disant nous allons exposer les artistes français en milieu de carrière. Ça veut dire quoi, milieu de carrière? Un ciment à 25 ans, c'est donc les aspects qu'ils ont fait à 12 ans. Bon, apportez-moi ce qu'ils faisaient à l'école. Là, et puis en plus, je leur dis mais est-ce que vous avez prévu si vous faites cette exposition, un moyen de l'après-vente à New York, à Pékin, à Melbourne et à Berlin. Ça ne sert à rien pour l'artiste français d'être accroché et décroché sous nos pieds. On a enfermé, comme nous sommes le dernier pays communiste avec la Corée du Nord, dans tous les pays communistes, on utilise, depuis 40 ans, on utilise la culture pour la propagande politique intérieure. Donc, ça fait 40 ans qu'on a enfermé nos artistes dans un réseau de femmes de droite pour l'élection du peuple de Beaubeuge, l'élection de l'air de Dijon. On achète des œuvres, on les met dans les caves et on oublie. C'est pas à Montbeuge seulement qu'il faut exposer, c'est à New York, c'est à Pékin. Parce que fondamentalement, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, nous sommes les seuls en Europe. On n'a aucune star actuellement promue par notre pays, comme Daniel Hurst en Angleterre, ou Mauricio Cattelan, enfin tout ce qu'il y a autour, ou les Allemands, Kiefer, Michel, aucun. Et là, à tel point que toute l'abstraction américaine des années 50, c'est quand même nous. Donc, Soulage, comme un artiste capital. Mais à force de ne pas exposer les artistes à l'étranger, ils vont faire une exposition sur la vie. Je dis, c'est seulement un argument que vous l'avez vendu aux États-Unis. Il n'y a aucun musée américain.
Voilà, est-ce qu'il faut mettre des statues de Saint-Tripa partout, la chapelle de Saint-Tripa? Comment faire pour éviter que la cause des artistes français soit une cause perdue?
Il faut se battre. Il faut se. Je suis désolé, mais. Donc on a, il n'y a aucune raison, mais chaque fois que je dis aux conservateurs, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des grands expos français à l'étranger, ils ne sont pas là pour faire gagner de l'argent. Je dis, mais c'est le pays que vous êtes en train d'assassiner. Et on fait la même chose avec les chercheurs. On renvoie le professeur Montagnier parce qu'il a 60 ans. Il appelle 5 ans après. Bravo, il est enfant. Et comme en plus les artistes et les chercheurs, c'est la même chose maintenant. Donc la seule matière première de ce nouveau monde, c'est la créativité. Donc c'est pas cet état. Il faut se battre, il faut maintenant. Nos musées, parce que ça va ensemble. Avec nos architectes, ils n'ont pas besoin d'avoir une infrastructure muséale derrière. Donc on a des formidables architectes qui ont fait en Chine, aux États-Unis, des choses extraordinaires. Ici, ils sont tout seuls, et une autre qui fait une tour nouvelle, etc. Mais les artistes ont besoin d'être, pour que les collectionneurs ont besoin d'être reconnus et soutenus et poussés par l'institution muséale. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une vraie collaboration entre les musées, les galeries, la presse, les entreprises, les collectionneurs. Les musées, les collectionneurs travaillent ensemble. Pour ça, pour promouvoir la création. Ici, tout le monde se tire dans les pattes parce que c'est... Quand Suzanne Pagé a fait son exposition des arts modernes un peu de chez nous, de passion privée, contrôle fiscal à tous les prêteurs. Ok, pas de plus, terminé. Enfin, si c'est comme ça, c'est vraiment stupide. Donc si vous voulez, tout peut redémarrer en un quart d'heure. On a tout. On est un pays génial, formidablement intelligent, formidablement créatif. Et vous savez, moi, ça fait 15 ans que je vais en Chine, donc je vais pour la création chinoise. Vous savez ce que la Chine, ils sont 1,5 milliard. Ce qu'ils ont fait en 10 ans. Alors, quand j'y suis allé au départ, ils sortaient de 50 ans de communisme, de 100 millions de morts, c'est quand même un empire. J'ai vu Pékin se construire. transformée en 5 ans, une vieille ville communiste pourrie à 10 km de la Chine, à New York. Quand vous revenez de Shanghai, maintenant New York, on est une ville de province. Hein. C'est extraordinaire, Shanghai. C'est un jardin d'architecture prodigieux, une énergie. C'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Nous, on est un tout petit pays, 60 millions, on est une ville des plus riches du monde. Et on passe son temps à aller, on passe son temps à être en grève, on passe son temps à renvoyer mon télé parce qu'il a 60 ans, à être. Et en plus, non seulement on dépense. Ils achètent, ils n'achètent pas des œuvres pour promouvoir les artistes, ils achètent des œuvres pour dépenser les budgets. Il faut qu'ils dépensent les budgets, parce que s'ils ne dépensent pas les budgets, on leur a dépensé. Et puis, comme ils nous font la morale en permanence, puisqu'ils sont en privé, on est évidemment infréquentable, on vient quand même de découvrir qu'il y a 17 000, au début, hein, 17 500 œuvres qui ont disparu, qui ont été volées. Hein. Alors, non seulement ils dépensent des budgets, ils n'en font rien, en plus ils les volent. Ils en font la morale. Bon, on n'est pas fréquentable.
Hein. Le lui est à tes côtés à gauche, là aussi, j'en fais partie.
Oui, bien sûr.
Et que, comme par hasard, aujourd'hui, on est dans une soirée qui réunit aussi les amis, le privé, etc. Donc, tu vois, c'est précisément ce qu'on doit pouvoir imaginer.
Exactement,
faire,
mais c'est faux.
Pour essayer de résoudre ce genre de questions.
Mais c'est résolu.
Tu permets que je te rappelle.
Je ne le dirai pas si je ne savais
faire.
Pas.
Non, mais c'est le comment faire. C'est effectivement le comment faire. Et souviens-toi, pour Olivier Pépin, qui a quand même voulu aussi faire quelque chose par rapport à ça, on s'était aperçu très bêtement que, effectivement, pour les sportifs, il fallait déjà exposer soi-même les artistes.
Exactement.
Alors, c'est le cas avec la force de l'art. Apprendre, on aime ou on n'aime pas.
C'est formidable, la force de l'art, mais il faut la prévendre déjà. Il fallait qu'elle soit.
On en a parlé avec Léa Gauthier hier. Je lui ai dit, c'est pas possible aujourd'hui. On a inscrit la force de l'art. Première édition, deuxième édition, troisième édition pour la première, je pense. Mais déjà, cette force-là, la manière dont elle s'est mise en place, paraissait incongrue. Or, aujourd'hui, elle paraît évidente. C'est déjà beaucoup.
Non, mais vraiment, ça.
Voilà.
Moi, je dis que.
Mais le paiement de la numéro 30.
Bien sûr, on a été comme ça depuis 40 ans, mais maintenant, ça y est, on redémarre. On redémarre vraiment. Et d'ailleurs, avec Olivier, quelqu'un, c'est lui. Qui a toujours voulu dès le départ qu'il y ait une vraie collaboration entre le public et le privé. Et là, le projet pour le Beaubourg sur le pied, je peux dire que c'est lui qui s'est battu et il a pris les coups. Hein. Ah là, il est courageux. Hein. Là, on avait le conseil d'administration au Valais ce matin pour vous dire qu'il s'est battu. Hein. Parce qu'il a tout contrôlé à l'intérieur du ministère. Parce qu'il voulait vraiment ce grand courage.
Non, mais de toute façon, Olivier, depuis qu'on a voulu piquer la connexion du FNAC pour Beaubourg, il est pas revenu. C'est devenu une petite guerre de tranchées. Ce n'est pas idéal, là, cette situation, cela dit.
Très, très dur pour nous. Mais si vous voulez, on sait. Si vous voulez, donc, ce ne sont pas les gens qui sont en cause, c'est la structure. À partir du moment où tout le monde est irresponsable, qu'on fait une connerie, de toute façon, ça n'a jamais de conséquences. Moi, j'ai eu des problèmes dans les années 90. À qui j'avais confié la gestion, qui m'a ruiné. J'ai été obligé de prendre la collection de l'appartement à Lausanne. Par l'administration, je vais le prévoir, vous avez doute. Hein. Voilà. Mais tout ça est en train de beaucoup changer. Ça avance très vite. Et cette jonction. D'ailleurs, le Palais de Tokyo, on a été l'exemple de la réussite de la collaboration publique. Et puis, si vous voulez, la mécanique de Tokyo, moi, pour faire venir les entreprises, je leur dis, vous ne vendez que du neuro maintenant. Vous ne pouvez plus vendre que de la créativité. Donc, pour montrer que vous êtes créatif, montons des opérations ensemble au Palais de Tokyo. C'est un laboratoire. Nous, on communique sur vous. Hein, et ça marche très bien. Là, je viens de signer un contrat avec Electrolux. On va faire tout ça à la place de l'hôtel parce qu'on a mis un hôtel. C'était un succès. On a eu jusqu'à 40 000 visites. Internet par jour.
Sur le toit, là, sur le toit.
C'était sublime. Ça, c'est un romantisme. Vous êtes en plein air. C'est une œuvre d'artiste. Vous êtes deux là-haut, devant la tour Eiffel. En plus, c'est un peu au-dessus des mêmes espaces parce que tout l'intérieur était très. Et alors, ça part pour un musée américain. Et donc, j'ai signé avec Electronus. Et notre prix Marcel Duchamp, le dernier, on va refaire avec Electronus. C'est une clôture. Un restaurant.
Grasso va faire un restaurant
sur le toit. Oui, exactement.
Laurent Grasso a été à 7 à l'institut.
Et donc, il va nous faire une cellule. Ouais, une cellule spatiale en plus de poser devant. Et on va faire des grands chefs, on va faire
des grands chefs. Tu fais la concurrence à ton Tokyo
Hit? Non, il n'y a que 10 personnes, et puis ce ne sera que les invités d'Electrolux. Hein. Bon, ils vont faire. Là. Donc c'était tout ça avant, c'était là, on est en train de créer un club, le Tokyo Art Club. On crée un club pour les collectionneurs et les entrepreneurs. Donc là, alors, il y a maintenant des années de 10 000 euros par an, c'est fiscalisé à 65%. Et là, on fait un espace pour vous, vous allez pouvoir faire pour les entreprises, on va avoir un spa qui finance lui-même.
Un spa de James Turner.
Et donc, ça va être un lieu avec tous les collectionneurs, les entrepreneurs, et on va faire avancer tout ça. Vous voyez, ce qui est passionnant, c'est que quand on travaille et qu'on peut décider, moi, quand je prends une décision, quart d'heure après, c'est fait, c'est parti. Mais s'affronter à ce mur administratif, je trouve bien fou. Ils ne savent pas ce que c'est que de prendre une décision.
Bien, quelle est la question que j'avais posée de la relation entre. De parler de Tokyo des collectionneurs. Est-ce que ça va être réservé uniquement aux entreprises ou est-ce que c'est réservé à tous les collectionneurs?
Avant tous les collectionneurs.
Et comment faire adhérer ou établir vraiment une relation avec tous les collectionneurs et parler de Tokyo?
Ah ben là, il y a deux choses. Il va y avoir le Club qui va être un lieu de travail. On est là aussi parce que moi j'ai besoin d'avoir l'argent pour tourner. Donc on va faire ça. Et puis on a ça et puis on a les amis de Paris Tokyo avec qui. On a un nouveau directeur maintenant, un nouveau président. J'ai dit, je veux beaucoup de collectionneurs. Les collectionneurs, c'est la vie. Ce sont eux qui font avancer les choses. C'est le choix des collectionneurs. Tous les musées sont pleins de ce que les collectionneurs ont choisi. Là, les collectionneurs, ils perdent leur propre sang. Hein. Les musées, ils perdent les autres. Donc, c'est facile. Donc, ce sont des choix. Donc, les grands collectionneurs, les bons collectionneurs, ils achètent avant. Ils comprennent, ils font avancer la machine. Et puis après, ils donnent. On a vraiment besoin de travailler avec eux. Ils sont absolument passionnés, ils savent tout. Comme les collectionneurs. Dans tous les domaines, on fait des ventes de. Je ne fais pas que d'art en bois, mais quand on a des ventes de spécialité, les collectionneurs viennent, ils savent tout. Ils sont passionnants. Donc je veux vraiment que les collectionneurs soient leur maison. Ouais, et qu'on puisse imaginer, qu'ils puissent. On fait des conférences tout le temps ici. Des conférences, des débats, des événements. On a créé aussi, parce que l'éducation nationale est criminelle actuellement. Ces pauvres gosses, ils sortent du bac, ils pensent que Picasso, c'est une voiture, et que De Gaulle joue au basket avec Charlemagne, ils ont des hyper copains. Donc on a créé des ateliers toc-toc, à quel point le cerveau est une machine fabuleuse. Alors les ateliers toc-toc, on prend les enfants qui sont inscrits, entre 5 et 10 ans, on a fait visiter avec des médiateurs l'exposition, ils sont là, ils sont assis, et après, on a un espace qu'on les fait travailler d'après l'exposition. Mais ils sortent de là, ils foutent bonheur, je pense. Et là, quand ils sont adultes, ils ne vont pas penser que. Parce que le problème de la France, actuellement, c'est que la seule activité culturelle, c'est le football. Quand ça suffit. Dans les médias, c'est effrayant. 90% du temps, c'est. Vous ouvrez la radio le soir, France Info à 20h, France Info Sport. Vous descendez au repas. C'est RTL. Alors en plus maintenant les journalistes, j'ai entendu RTL, les journalistes sportifs, parce que c'est une équipe s'appelle, j'ai jamais vu un match de foot. Alors je permets de penser, les pensées d'eux. Et ici, il a fait un bon jeu en disant que Andy Warhol était un artiste absolument grotesque. C'est ce con, allez regarder les types qui donnent des coups de pied dans son ballon, on ne laisse pas la parole avec les appareils, c'est quand même hallucinant. Andy Warhol est un prétard, c'est honteux, c'est une exposition de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, si vous voulez, on a aussi besoin dans les médias d'avoir, de reprendre la main dans ce domaine-là. Parler d'autre chose. J'ai dit, écoutez, il y a une station spatiale au-dessus de la Terre, vous devriez être tous les matins en direct avec la station spatiale pour nous montrer les sublimités de ce qu'il y a dans l'espace. Sublimités, c'est vrai. Moi, je rêve d'y aller, là. Donc, on a tout ça. Moi, je suis très optimiste, hein, parce que il faut dire les choses qui ne vont pas, mais. Dire maintenant, il faut leur taper dessus, il faut avancer, il faut faire. Puis, quand on décide de faire, on y arrive. Parce que là, imaginez que le type allait de Tokyo, on est là, on est 40, on est dans nos friches, on se bat pour trouver de l'argent. face à Beaubourg, c'est 2000 personnes qui ont réalisé qu'ils vont s'installer, je pense que je suis arrivé à avoir la peau. Donc ça veut dire quand on veut, on peut. Et cette machine, en plus, on a été chassé pour une Sonia qui est désert. Maintenant, il va y avoir toute la ça va être la vallée de l'art, il va y avoir là où il y a le buffet, il va y avoir tout un parc de sculptures. Cette île Sonia va être divisée en trois, il va y avoir une partie de salle de spectacle. Au milieu, il va y avoir les restaurants, les hôtels, les bureaux, etc. Et la partie artistique, il va y avoir un grand espace d'exposition, des galeries. Et puis j'ai imposé dès le départ un pôle numérique. Et là, ça devenait une machine. Au départ, c'était une vidéo, qu'est-ce que c'est ça? Et puis j'ai dit, mais je travaille avec les artistes, et puis surtout qu'on soit. Il n'y a aucune raison sur la Corée du Sud qui soit le premier dans le monde, le Canada s'est beaucoup développé aussi. Et puis vous ne pouvez pas, on ne peut pas ne pas s'occuper de ça. C'est à la fois une technologie prodigieuse, et en même temps, il faut que les artistes aient ces soutiens-là à apporter. Soit un exemple dans le monde. Et puis, comme il va y avoir un espace, il va y avoir des galeries, un espace d'exposition, et je veux que tout sur place, que ce soit un endroit. Donc, il va y avoir.
Le palais Tokyo est lié à l'Isonia, du coup, ou c'est toi en tant qu'expert?
Non, on a été choisi. Le palais Tokyo, nous avons été choisis en tant qu'expert pour l'Isonia.
D'accord. Et après, dans la réalité de l'application, de la réalisation de l'Isonia, le palais Tokyo gardera un
lien? Ah
ben,
naturel. Là, si je récupère le bas, j'essaierai aussi d'avoir une partie de mon bas pour pouvoir travailler.
Oui, tout à fait. Cela dit, le ZKM fait pas mal de choses en Allemagne, pour le coup. Mais c'est vrai qu'on va relier le Fribourg aussi un petit peu.
Donc tout ça se développe, mais ça fait si peu de temps, là, je vous rendais compte, ça fait à peine 50 ans. Et encore, même pas. Mais combien de temps? Combien de temps qu'on n'avait pas ça? Comment est-ce qu'on peut vivre sans ça? Comment est-ce qu'on a vécu sans ça? Il y a combien de temps?
10 ans? 15 ans?
Il y a eu 6 ans ce qui s'est passé. Vous savez, quand je disais, il y a le Zandrin, l'ordinateur qui était, comme s'il s'est posé sur la ligne, l'ordinateur de Zandrin était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins puissant que ce qu'il y a dedans. Et lui, il m'a raconté un peu de lui, sinon, au moment de se poser, c'était l'ordinateur qui était décidé devant moi. Il arrive et il s'aperçoit que s'il se pose là, c'est dans un ordre. Bon. Et donc, Buzz reprend les. Et il entend de Houston, il dit Buzz, il te reste 12 secondes de carburant. Vous vous rendez compte ce qu'il faut comme self-control, comme. Il est hallucinant. Il a 80 ans, il a 40, c'est une sorte d'énergie qui est magnifique. C'est un héros, quoi. Extraordinaire. Il y a si peu de temps. Incroyable.
Pierre, est-ce qu'on peut parler du côté compulsif du collectionneur? Comment est-ce que tu dis ça, le côté compulsif du collectionneur? Parce que pour un collectionneur, c'est ce que tu possèdes, et la une fois que tu as possédé. C'est un peu un syndrome de donjon.
C'est ça, à l'inverse de l'immatérialité dont tu parles.
Ah, mais non, l'amour est immatériel. Je suis amoureux d'une femme, c'est un amour immatériel, mais je vais l'avoir dans mes bras quand même. Donc, ne contente pas de regarder sa photo alors qu'elle est une
relation de jeunesse. Mais si l'amour devient immatériel, que
c'est pareil. C'est pareil. Mais non, ça sera pas l'immatériel n'existe pas, en fait. Mais compulsif, c'est. Si vous voulez, moi je ne suis pas un accumulateur. Une collection, pour moi, comme dans la vie, c'est une sélection permanente. Donc il faut plus les œuvres vous apprennent, vous nourrissent, et puis donc peu à peu. Alors il y a des œuvres qui tiennent le coup, comme je disais, moi. Je continue à nourrir en même temps, avec des œuvres qui se vivent très bien. Donc il faut que ce soit une sélection permanente. Et moi je suis compulsif, mais je ne suis pas accumulateur. J'essaie de. De chercher. D'ailleurs, c'était Lord Abdi, qui était un immense collectionneur, député. Il avait dit un grand collectionneur, je vais terminer par 10 objets. Le plus bel objet égyptien, le plus beau pont de la Renaissance. Et moi, je termine bien avec le plat, j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'œuvres. Il faut que ce soit une collection. Mais c'est vrai que c'est. C'est compulsif, quoi. Je suis un mec de zone, c'est sûr. Et surtout, je crois que c'est un filtre extraordinaire. Ça permet. C'est, tout doit être artistique. Hein. L'amour, la sensualité, la nourriture. Moi, j'ai toujours détesté les viveurs. Hein. De saouler, de déguster, baiser, faire l'amour, manger, bouffer. L'art doit diriger nos vies. Quoi. Tout doit être artistique. J'ai la chance d'avoir j'ai toujours voulu faire des filles, mais j'ai quatre garçons, avec deux femmes différentes, donc je suis pas responsable. Et donc mes deux fils aînés sont mes associés, et ils sont vraiment extraordinaires. Bertrand, le premier, a toujours voulu faire ça. Il est collectionné. Alors oui, mais il ne collectionne pas la compagnie, il collectionne un peu des histoires. Il a une collection énorme de tout ce qui touche la guerre de l'Europe. C'est une forme magique, c'est tout. Et Arnaud, lui, il a voulu être affaire que comme moi. Il a dit, bon, il fait une école, il a fait un HEC, ensuite il est allé à New York, je suis allé, je suis allé à Combe, je suis allé à 4 ans. Ça m'ennuie, la banque, ça m'ennuie. Le dimanche soir, ça me rend de la rentrée des classes, je regarde, il y a un fils, il a fait la Sorbonne, etc. Puis quand la loi a changé, on a